9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. La guerre, jusqu'à quand? La mort accidentelle de 13 militaires français au Mali pose à nouveau question sur l'efficacité stratégique d'un engagement vieux de presque 7 ans sur la quasi-solitude de la France au Sahel face aux djihadistes. Question qu'Emmanuel Macron a promis de se poser.
Le contexte que nous sommes en train de vivre au Sahel me conduit aujourd'hui à regarder toutes les options stratégiques. J'ai tenu hier une première réunion et les prochaines semaines seront consacrées à un travail en profondeur que j'ai demandé au gouvernement et à nos armées pour regarder les modalités de notre intervention. Et je le dis, toutes les options sont aujourd'hui ouvertes.
Paul Quilès sera mon premier invité. Il a été ministre de la Défense sous Mitterrand, président de la Commission de la Défense à l'Assemblée sous Jospin. Et dès le début de l'intervention française au Mali, il a exprimé des réserves ou des interrogations. Au générique également, un ténor du barreau, deux cinéastes et un passionné d'opéra. L'avocat, c'est Alain Jakubowicz. Avant sa défense tourmentée de Nordal Lelandais, il a été l'avocat des victimes de Barbie, Touvier et Papon dans trois procès historiques. Grand écart, non, dit-il dans un livre où il défend son métier et ses engagements. Nous aurons ensuite deux grands noms du cinéma et de la photo, Raymond Depardon et Olivia Sayas, qui témoignent de leur épopée hollywoodienne de l'hiver 82, quand Coppola passait pour le nouveau roi du cinéma américain. Enfin, la plus grande voix du XXe siècle, Maria Callas, n'a jamais pu écrire le roman de sa vie, mais ses mémoires inachevées et ses centaines de lettres ont été recueillies et rassemblées par Tom Wolfe, le réalisateur de Maria by Callas. Dernière touche, dernier secret d'un destin hors du commun.
Europe 1,
c'est arrivé cette semaine.
Bonjour Paul Quilès.
Bonjour.
Je précise que vous nous appelez de Cordes dans le Tarn, magnifique cité médiévale dont vous êtes le maire depuis 25 ans. D'abord les morts et leurs proches, 13 tués en opération, c'est une perte exceptionnelle pour l'armée française. Un hommage national leur sera rendu après-demain, lundi. Quel hommage selon vous? Quel discours tenir aux familles endeuillées et à la nation?
Permettez-moi d'abord de faire part d'une expérience personnelle. Je suis fils de militaire, fils d'un officier qui était en opération extérieure de commando quand j'étais tout jeune. Donc j'ai connu moi aussi l'angoisse, la souffrance de l'absence, le risque permanent de mort. Et j'ai connu aussi, je pense aux familles aujourd'hui, la frustration du désintérêt de l'opinion, de la presse en particulier, sauf quand une catastrophe de cette nature survient. J'ai connu aussi les polémiques mettant en cause des soldats du fait de leur mission. Ce que je veux dire, je veux leur dire, et je n'apporterai rien au discours général qui est l'hommage qui va leur être rendu. Tous ces hommes sont des braves, ces hommes au combat, pas seulement ceux qui sont morts, c'est des gens qui ont des valeurs. Sacrifice de la vie pour le pays, ça signifie quelque chose, leur engagement au service de la France. Évidemment, ça ne doit pas empêcher de réfléchir au sens de la mission qu'ils remplissent, mais je crois qu'il ne faut pas mêler les genres et respecter le deuil et l'hommage qui va être rendu à des serviteurs de la France. Voilà ce que je veux dire pour commencer.
Les questions à présent, Paul Quilès, après 7 années de guerre, 4500 soldats français encore déployés au Sahel. D'abord, qu'est-ce que vous diriez à un citoyen parmi ceux qui vous écoutent en ce moment, qui peuvent légitimement se demander, mais qu'est-ce qu'on fiche là-bas?
Alors c'est bien ça le problème, c'est que on redécouvre le djihadisme et le terrorisme. C'est bien de ça qu'il s'agit. J'ai écrit quand j'étais président de la commission de la défense après le 11 septembre un rapport qui s'appelait "Combattre le terrorisme 33 propositions pour contrer la menace terroriste". En le relisant hier, j'étais effondré de voir à quel point on avait malheureusement beaucoup prévu. Mais on oublie les origines du djihadisme. Il n'est pas né au Mali, il n'est pas né au Sahel. Il est né en 79. Et c'était à l'époque Ben Laden, Al-Qaïda. Excusez-moi, Ben Laden soutenu par les Américains pour contrer les Soviétiques. Et c'est à partir de là que toute une série d'événements sont survenus qui ont fait que le djihadisme, qui était une dérive de l'islamisme politique, a pris de l'importance dans un certain nombre de pays, l'Afghanistan. Ensuite, on en reparlera, j'espère, tout à l'heure pour montrer la dérive qu'il faut éviter au Sahel et au Mali en particulier, et puis dans tout le Moyen-Orient, et ensuite, à la suite notamment de ce qui s'est passé en Libye, dans le Sahel et dans toute une partie de l'Afrique. Donc c'est ça qu'il faut bien se mettre dans la tête pour comprendre ce qui se passe. On n'est pas allé spontanément en janvier 2013 soutenir un régime qui était en train de s'effondrer parce qu'il y avait eu des bêtises de fait et un certain nombre qui avaient permis aux djihadistes de descendre du nord du Mali, qu'on appelle Azawad, qui est grand comme plusieurs fois la France, c'est le pays des Touaregs, de descendre vers Bamako. Et imaginez-vous qu'à cette époque-là, le Conseil de sécurité, c'est-à-dire l'ONU, avait annoncé qu'il allait faire quelque chose, qu'il allait mettre en place une mission, et il a fallu attendre 9 mois pour que cette mission soit mise en place. Qu'est-ce que vous croyez que les djihadistes ont fait ? Eh bien, ils sont avancés vers le sud, d'où l'intervention de la France avec l'accord du Conseil de sécurité en janvier 2013.
Intervention qui a donc permis de protéger Bamako des djihadistes, de reprendre les villes, absolument, mais pas de faire baisser la menace des groupes armés.
Évidemment.
Qu'est-ce qui manque aux militaires français aujourd'hui, Paul Fides ?
Oui, il y a 4500 soldats français, mais en même temps, il faut savoir qu'il y a aussi une force qui s'appelle G5 Sahel avec 5 pays, Mali, Mauritanie, Burkina, Niger, Tchad, 4000 hommes, mais qui n'ont pas une force opérationnelle forte. Et il y a plus de 13 000 casques bleus de l'ONU qui font du maintien de la paix et, excusez du peu, 620 Européens qui donnent un coup de main, des Allemands, des Anglais. Bon, ça n'est pas comme cela qu'on peut contrer cette menace et ça n'est pas non plus en se fixant un seul objectif de nature militaire. Éradiquer le terrorisme, ça n'a pas de sens. Il faut surtout, et ça il me semble le plus important, essayer de stabiliser par une action politique ces pays, et notamment le Mali, qui n'est pas le seul concerné.
Mais vous savez que l'État malien est défaillant, que l'accord de paix qui prévoyait l'intégration des groupes rebelles au sein de l'armée n'est pas respecté, et que cette armée n'est toujours pas au niveau. Je rappelle, c'est important, plus de 140 soldats maliens ont été tués depuis septembre.
Tout à fait. Et donc, il paye très lourd tribut à ce combat. La France, évidemment, ne peut pas seule répondre à ses besoins. Parce que l'objectif, ce n'est pas d'écraser le djihadisme sur toute la région du Sahel. Bien évidemment, on voit bien que la mission est impossible. Ce qu'il faut, c'est empêcher que les djihadistes aient un écho dans des populations du Sahel. Et malheureusement, il y a plusieurs endroits où l'écho commence à devenir favorable. Donc, la réponse, c'est quoi ? C'est une action militaire et civile. Et civile, c'est une aide à la reconstruction. Vous savez, on parle en ce moment de dérive afghane. Moi, je me souviens tout ce qu'on a raconté à propos de l'Afghanistan. Est-ce que vous vous souvenez du chiffre ? Je l'ai retrouvé hier. Les Américains et l'ensemble de la coalition internationale, c'était 150 000 hommes. Ce n'était pas 4 000 ou 5 000. Et ils ont dépensé, essentiellement les Américains, mais pas eux seuls, 500 milliards de dollars pendant 11 ans pour cette opération pour laquelle on a changé sans arrêt d'objectif. Et alors, ce qui me semble important ici, dans le dossier dont nous parlons, c'est qu'on dise clairement quel est l'objectif, quels sont les objectifs et quels sont ceux, les partenaires qui doivent y participer. Il faut arrêter de s'enfler la tête en parlant de défense européenne, d'alliance, de l'OTAN, enfin dont M. Macron a découvert qu'il était en état de mort cérébrale, ça fait longtemps qu'on le sait, mais essayer de fixer quels sont les objectifs. L'objectif, ce n'est pas simplement de gagner la guerre. Gagner la guerre contre le djihadisme dans ce lieu, on n'y arrivera pas. C'est de gagner la paix. Et gagner la paix, ça se construit par des opérations, pas simplement militaires. Et c'est comme ça qu'on évitera ce qu'on peut appeler le piège afghan, c'est-à-dire des dépenses faramineuses, un résultat catastrophique, des changements d'objectifs permanents. Moi, j'avais proposé, quand Kaboul a été libéré assez rapidement par la coalition internationale après le 11 septembre, j'avais proposé que les Américains et la coalition internationale fassent ce que j'appelais un plan Marshall, comme avaient fait les Américains pour l'Europe après la guerre. Et je me souviens que Colin Powell, qui était le ministre de la Défense à l'époque, m'avait quasiment rionné en disant que ça n'était pas le problème. Le problème était militaire. Eh bien non, j'ai trouvé dans une émission que j'avais faite sur votre chaîne, c'était en 2013, avec Nicolas Poincaré, j'ai retrouvé. On disait à l'époque qu'avec 1,5 milliard de dollars, cela suffisait pour une vraie reconstruction civile de l'Afghanistan. Ben, je pense qu'il y a des réponses de même nature à apporter aujourd'hui pour le Mali et toute la région environnante.
Et pour éviter que le Sahel devienne un nouvel Afghanistan, on vous a compris. Donc, l'armée française ne peut pas rester indéfiniment, sans limite de durée, sans objectif, sans condition de sortie. Paul Quillet,
c'est
bien cela.
Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que la France se retire. Ça, c'est absurde. C'est absurde. C'est une polémique non seulement fausse, mais en plus indigne dans la période de deuil dans laquelle nous devons vivre en ce moment.
Merci beaucoup, Paul Quillet, ancien ministre et maire de Cordes-sur-Ciel dans le Tarn, pour quelques mois encore, je crois, Paul Quillet.
Quelques mois, voilà. voilà, après 25 ans de bons et loyaux services dans cette superbe cité médiévale que je vous invite à visiter.
Merci à vous, Paul Quilès. Bonne journée.
Europe 1.
Alain Jakubowicz, avocat, militant, figure du barreau, avec Nordal Lelandais, il a cru défendre un innocent et il se retrouve à assister un criminel. Il nous en parle dans un instant.
Europe 1. Excellent week-end à l'écoute d'Europe 1. Cette arrivée cette semaine continue jusqu'à 10h. Patrick Cohen.
Bonjour Alain Jakubowicz.
Bonjour Patrick Cohen.
Avocat, 43 ans de barreau, 3 procès historiques, Barbie, Touvier, Papon, des combats contre l'antisémitisme et le négationnisme, une vocation à porter assistance à la veuve et l'orphelin, et puis la défense d'un criminel, Nordal Lelandais, des prises de bec avec le procureur et les médias qui ont étalé le dossier sur la place publique. C'est la dernière partie de votre livre « Soit je gagne, soit j'apprends », phrase empruntée à Mandela. On va y revenir. Mais d'abord, ces procès pour l'histoire dont la plupart des acteurs ne sont plus là, qui nous paraissent aujourd'hui si lointains. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris sur la nature humaine et sur votre métier d'avocat ?
Ils m'ont tout appris. D'abord, ils m'ont appris de prendre de la distance par rapport à une période de l'histoire, l'histoire de notre pays, l'histoire nationale, combien il était difficile de vivre au cours de cette période et que, voilà, il n'y a pas les gentils et les méchants. Bien sûr, il y a les nazis, bien sûr, mais parmi les Français, parmi nos compatriotes, il y a effectivement une minorité de résistants, il y a une minorité de collaborateurs et puis il y a le ventre mou. Ça m'apprend beaucoup sur la nature humaine, bien sûr. Et puis, ça m'a appris par rapport à la justice. Je me souviendrai toujours du procureur général Truss s'adressant au procès Barbie, en disant « c'est l'honneur de notre justice que de donner tous les gages et toutes les garanties du droit de la défense au pire des criminels ». Voilà, nous sommes dans notre sujet.
Et vous vous souvenez comme moi de ce qu'on disait de l'exemplarité de ces procès, des témoignages et des preuves sur ces crimes suprêmes, les 44 enfants d'Izieux envoyés à la mort sur ordre de Barbie.
Il y a eu une sorte de consensus national. Grâce à la presse, que je salue, tous nos concitoyens étaient contemporains de cette période. On est rentré dans l'histoire. Et il y a véritablement un avant et un après. Et là, il y a une rencontre de la justice et de l'histoire. C'est quelque chose d'absolument exceptionnel, je crois, dans notre histoire judiciaire.
Je disais que ça paraissait loin, Alain Jakubowicz, quand vous voyez aujourd'hui des étoiles jaunes dans un cortège et des intellectuels, des politiques aussi, justifier cette analogie entre le sort des Juifs en 1942 et celui des musulmans de 2019. Qu'est-ce que vous dites ? Que la mémoire s'est effacée, que la confusion des esprits et des valeurs est à son comble ?
Vous savez, c'est pas nouveau non plus. Moi qui suis contemporain de mai 68, quand on hurlait CRS-SS, franchement, il y a des choses plus intelligentes qui ont été dites. Aucun CRS ne sera jamais un SS. C'est le début de ce relativisme. Et aujourd'hui, effectivement, pour parler d'un vrai problème, qui est celui du racisme anti-musulman, de coller une étoile jaune sur la poitrine d'une petite fille, de l'instrumentaliser comme si elle était dans le même péril qu'une enfant juive de son âge au cours des années 40, c'est terrifiant de voir cela.
Vous dites que ce n'est pas nouveau, la nouveauté, c'est quand même que des élus, des politiques se font le relais de cette comparaison. C'est inquiétant,
oui, bien sûr, c'est un manque de culture. Ils pensent qu'avec cela, ils vont faire des voix. C'est encore pire, c'est pour moi véritablement une circonstance aggravante.
Nordal Lelandais, Alain Jakubowicz, je l'ai qualifié de criminel tout à l'heure, soyons précis, il n'est pas condamné, il a reconnu deux crimes, celui de la petite Maëlys et du caporal Arthur Noyer. Quand vous devenez son avocat, c'est un suspect qui crie son innocence et vous y croyez en quelque sorte.
Je l'espère. Oui. Je l'espère de tous mes voeux et je le dis, je confesse une sorte de péché d'orgueil, et si cet homme était innocent, et si j'étais l'avocat qui allait le faire acquitter.
Bref, c'est plus que ça. Le destin m'avait amené le dossier, le dossier dont rêve tout avocat, celui qui permet à force de travail et de persévérance de faire éclater l'innocence d'un individu que tout accable, mais ce n'était pas du tout ce dossier-là.
Non, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, parce que la vie d'un dossier n'est pas un long fleuve tranquille, parce qu'un dossier évolue, mue. Voilà, c'est la réalité de la justice, c'est la réalité de la vie d'un avocat.
Ce qui vous amène à prendre la parole et vous fait sortir de vos gonds dans ce dossier, c'est deux choses. La diffusion par BFM d'une image de vidéosurveillance avec Lelandais à ses côtés dans une voiture, la silhouette, une silhouette blanche qui pouvait être celle de Maëlys, et un point de presse du procureur de Grenoble qui détaille les charges contre Lelandais. Maintenant qu'on connaît la suite, les aveux du criminel, est-ce que la colère, vos reproches de l'époque ne vous paraissent pas un peu dérisoire ?
Non, absolument pas, pour une raison très simple. D'abord, c'est que contrairement à ce que vous venez d'indiquer, ce n'était pas une image de vidéosurveillance. Si ça avait été une image de vidéosurveillance, l'histoire ne serait pas la même. C'est une reconstitution faite à partir de. Et vous voyez, le fait que vous-même le pensiez et le croyez
est
parfaitement symptomatique.
Il y a vraiment eu une image.
Mais la vraie image existe, mais elle est très loin de la reconstitution. Et là, il y a une manipulation, il y a une malhonnêteté de la part des journalistes qui ont commis cela. Et ça, pour moi, c'est inacceptable. Parce que de cela découle toute une série de choses. Et notamment ma prise de parole, également celle du procureur de la République à l'époque, qui énonce comme une vérité première et péremptoire un fait qui est contredit par les éléments du dossier à ce moment-là.
De quoi vous parlez ?
L'heure à laquelle l'enfant a disparu.
Il avait raison d'insister sur la fragilité des témoignages. Mais il disculpait le Landais.
Il n'a pas insisté sur la fragilité des témoignages. Il a affirmé une chose, contrairement aux témoignages de l'époque, sans dire qu'il y avait ces témoignages qui disaient exactement le contraire et qui étaient extrêmement nombreux. Non. La réalité d'un dossier, en toute hypothèse, on ne va pas refaire l'histoire.
Non, mais on peut dire qu'il avait vu juste sur ce dossier.
Non, on va dire qu'effectivement, il pensait un certain nombre de choses qui se sont avérées exactes. Mais ce que pense un procureur de la République, on s'en moque. Le Code de procédure pénale donne la possibilité au procureur de la République de prendre la parole en un certain nombre de cas, comme le faisait excellemment le procureur Molins. Le procureur Molins n'a jamais donné ses états d'âme. Le procureur Molins était chirurgical. Et je dis, effectivement, c'est peut-être pas très gentil pour le procureur de l'époque de Grenoble qui aujourd'hui a pris sa retraite, n'est pas François Molins qui veut.
Alain Jakubowicz, avocat qui dresse le procès des médias, de certains médias sur le traitement des affaires criminelles. On en parle dans un instant.
Europe 1. Jusqu'à 10h le samedi sur Europe 1, vous écoutez C'est arrivé cette semaine avec vous, Patrick Cohen.
Avec Maître Jakubowicz, auteur de « Soit je gagne, soit j'apprends chez Plon », dans la toute dernière partie de votre livre, vous dénoncez les dérives de la presse, d'une partie de la presse, des médias. Dans ce dossier-là, le Landais, il y a eu emballement, sûrement, évidemment, comme dans toutes les grandes affaires criminelles, mais à quelques exceptions près, il n'y a pas eu d'invention, il n'y a pas eu de mensonge.
Mais bien sûr que si. Invention, mensonge, que je dénonce dans ce livre, et en citant les faits. Bien sûr, on a fabriqué un certain nombre de choses. On a fabriqué un tueur en série qui n'existe pas aujourd'hui. 2 ans de travail de la cellule Ariane qui n'en sort rien.
Alors la cellule Ariane, c'est celle qui regarde les disparitions inquiétantes.
Un des dossiers dont on a le plus parlé de la disparition d'une dame dont je ne dirai pas le nom par respect pour elle à votre antenne, dont on dit qu'il l'a vue, qu'il était dans le même hôpital, etc. Le procureur de la République vient de prononcer un classement sans suite. Qui en parle ? On a fabriqué un certain nombre de choses. Mais pire que cela, on a trafiqué la justice. Je prends un exemple, une image très forte. Je parle d'un viol de la justice. Parce que ces médias-là qui fabriquent des choses rentrent dans la justice contre son gré et font peur à la justice. C'est absolument terrifiant ce à quoi on assiste. Aujourd'hui, on a fabriqué une culpabilité à partir de faits qui sont objectivement contraires à la réalité dans le dossier. Ce qui ne fait pas de lui un innocent, que les choses soient claires. Je ne suis pas en train de plaider aujourd'hui une innocence. Je dis simplement que le procès est d'ores et déjà complètement trompé par cette intromission d'une partie de la presse dans le phénomène judiciaire. Et cela n'est pas acceptable. Parce que ces médias-là ne font pas de l'information, ils font de l'argent. C'est singulièrement différent. Je donne cet exemple. Lorsque un fait se produit et qu'on réunit des spécialistes pendant des heures durant sur des plateaux, des psychiatres qui viennent psychanalyser un homme qu'ils n'ont jamais rencontré, des avocats qui viennent parler d'un dossier qu'ils ne connaissent pas, est-ce que c'est acceptable ? Je suis désolé, mais pour moi, ce n'est pas de l'information, ce n'est pas du journalisme, c'est des affaires. Voilà.
Alain Jakubowicz, on va forcément vous dire que c'est ce que vous faites dans votre livre. Vous mettez sur la place publique des éléments du dossier, vous racontez vos relations, vos rencontres avec le Landais.
D'abord, je l'ai dit, je suis sur le fil du rasoir, je l'admets volontiers. Les critiques, je les accepte. Je ne viole en aucune façon le secret de l'instruction. Pour moi, c'est une règle, c'est certes une pantalonnade, mais c'est la loi, et tant que ça sera la loi, moi, je la respecterai. Et il n'y a pas un fait dont je parle dans ce livre qui n'ait pas déjà été exposé dans la presse. En revanche, c'est vrai que je parle d'un certain nombre de choses, de relations avec mon client, de l'homme, et de ce point de vue-là, je m'affranchis d'une certaine façon d'une obligation qui est la mienne, qui est celle du secret professionnel. J'en ai parlé avec lui, il ne peut pas m'en délier. J'accepte ce risque parce que je considère que c'est la réponse à apporter à ce délire médiatique. C'est la seule réponse que j'ai trouvée parce que je ne peux pas aller sur tous les plateaux toute la journée pour aller répondre à ces choses que je considère inacceptables.
Vous parlez de vos relations avec le Landais et aussi de vos affres, de vos tourments personnels. Vous racontez votre abattement au moment des aveux de le Landais. Vous avez envie de tout envoyer promener.
Oui, parce que je suis un homme. Voilà. Et que sous la robe d'un avocat, il y a un homme avec ses états d'âme. Et c'est vrai que, d'une certaine façon, il y a une forme peut-être d'impudeur, d'une certaine façon, à parler de ses états d'âme. Et d'ailleurs, chacun des chapitres de ce livre commence par un dialogue que j'ai avec moi-même, mes doutes. Oui, je suis un homme de doutes. Rien ne me fait plus peur que les certitudes. Les certitudes sont terribles pour moi. Je doute, j'interroge, mais je prends des décisions. Et c'est vrai que c'est d'abord ce livre une déclaration d'amour à ma robe, à ma profession, et une conclusion. L'avocat est un homme seul. Voilà, il a un moment des décisions à prendre, il commet des erreurs et je confesse un certain nombre d'erreurs dans ce livre. Oui, je crois que le moment était venu pour moi de dire tout cela, mais de dire tout cela. Et pas seulement au sujet de l'affaire Le Landais qui prend qu'une partie du livre. C'est un fil conducteur, c'est l'histoire de 43 ans de la vie d'un avocat.
Merci beaucoup Alain Jakubowicz. Soit je gagne, soit j'apprends de Klaus Barbie à Nordal Le Landais. L'avocat raconte, ça paraît chez Plomb. Merci à vous.
Merci à vous.
Europe 1.
À l'hiver 82, Raymond Depardon et Olivia Sayas sont partis à Los Angeles à la découverte du cinéma américain et de ceux qui le faisaient. Une épopée dont ils ont rassemblé les souvenirs en texte et en photo. Deux grands cinéastes et photographes avec nous dans un instant.
Europe 1. C'est arrivé cette semaine, la suite, c'est sur Europe 1 et jusqu'à 10h, vous écoutez Patrick Cohen.
LA, Los Angeles 82, janvier 1982, c'est là que débarque un tout jeune journaliste et un photographe et cinéaste confirmé dans le but de rencontrer réalisateurs, acteurs et producteurs et de produire un numéro spécial des Cahiers du cinéma consacré au cinéma américain. Mais pas grand-chose ne se passe comme prévu. Un carnet de voyage qui paraît aujourd'hui en témoigne. Bonjour Olivia Sayas.
Bonjour.
Le jeune journaliste, c'était vous. Vous aviez 26 ans, premier séjour aux États-Unis. Bonjour Raymond Depardon.
Bonjour.
Avec votre appareil, vous avez été le témoin de cette épopée cliché superbe de la Californie de l'époque. Olivia Sayas, votre aventure, elle est d'abord drôle. C'est un récit à la Jérôme K. Jérôme. Vos interlocuteurs se dérobent. Les films que vous voyez sont décevants. Certains entretiens sont accablants. L'équipe télé de TF1 qui vous accompagne est assommante.
Je me suis mis tout seul dans un pétrin invraisemblable, c'est-à-dire qu'à la fois il y avait le désir des Cahiers du cinéma où j'étais un très jeune journaliste, de faire un numéro spécial qui renouerait, après la période gauchiste hein, quand même, il faut s'en rappeler. Cinéma américain était banni, donc il fallait renouer et simultanément j'avais organisé par l'intermédiaire d'une amie une série de reportages destinés à l'émission, qui était l'émission de Frédéric Mitterrand, Étoile Étoile. Donc je me retrouvais à la fois à gérer, à être assistant réalisateur et journaliste de télévision et en même temps à coordonner un numéro spécial des Cahiers du cinéma. Donc du coup, c'est vrai que je me retrouvais dans des situations assez paradoxales.
Et vous n'aviez pas tous les codes parce que vous ne passiez pas forcément par les canaux officiels, les agents, etc. Vous essayiez de contacter directement des grands cinéastes, des auteurs, des musiciens.
Ah oui, on faisait pas du tout ça de la manière dont on le ferait aujourd'hui à travers tous les filtres d'agents, de trucs, de machin, etc. Il y avait l'idée, on parle d'égal à égal.
Évidemment, les difficultés de l'équipe des Cahiers du cinéma vous laissent le temps, vous Raymond Depardon, de photographier des scènes de rue, des décors de studio, des motels, des palmiers. Quel souvenir gardez-vous de tout ça?
Magnifique, magnifique. En plus, moi, je revenais beaucoup, j'avais beaucoup couvert des révolutions au Tchad, notamment en Afrique. Et donc, j'étais assez... les palmeraies, ça ne me changeait pas. Et j'ai découvert d'abord que, effectivement, Los Angeles, c'est une grande palmeraie.
Oui, il y a plus de palmiers que de piétons sur vos
voilà,
photos.
Et puis, c'était un rêve aussi. Parce que pour ma génération, quand même, j'étais nourri au cinéma américain dès la jeunesse. Et puis, alors, c'est vrai que moi, je sortais... même si je n'ai pas été comme ça de la génération de Gilles Caron. Mais c'est vrai que les Américains, c'est ce que vous disiez avant, c'est qu'ils étaient un peu bannis. C'était quand même... le Vietnam n'était pas si loin que ça, quoi. Ouais. Le Vietnam avait quand même fait qu'on se méfiait beaucoup des Américains.
Gilles Caron, photoreporter de grand talent, avec qui vous avez fondé Gamma, et qui a laissé sa vie au Vietnam. Dans les clichés, je reviens au cinéma, il y a la place de parking de Francis Coppola et on en déduit qu'il roulait dans une DS Citroën.
Oui, absolument. Oui, absolument. Mais c'est vrai que on avait une très bonne cote. Enfin, ils nous aiment beaucoup, les Américains. Et surtout quand on arrivait comme ça à les cahiers du cinéma.
Oui, il y avait le prestige de l'époque Truffaut-Bazin qui est souligné par Serge Toubiana dans sa préface. Alors, la grande curiosité de ces années-là, la sensation, c'était Coppola, Francis Coppola, qui avait bâti son studio, The Trop, son écosystème, si je puis dire, mais qui va y laisser sa fortune. Et que vous parvenez à rencontrer Olivia Sayas.
Oui, disons qu'on est vraiment à un moment charnière. C'est d'ailleurs passionnant d'observer ça avec le recul. On est à un moment où le cinéma américain est profondément en crise. Rien ne marche, le système des studios, c'est fini, le nouvel Hollywood, c'est terminé. Et ce qui est en plein boom, et ben c'est le câble. C'est tout d'un coup, ils installent 10, 15, 20 chaînes. Il y a une sorte de nouveau monde qui est en train de se profiler et qui va submerger le cinéma. Et le cinéma n'avait pas encore trouvé une sorte de parade qui est, admettons, celle des blockbusters, des films à très gros budget, à effets spéciaux, parce qu'on en était encore qu'au balbutiement de ça.
Mais Coppola mise sur les effets spéciaux, justement, dans ses studios.
Mais alors Coppola, lui, il propose une hypothèse à ce moment-là qui serait une alternative au système des studios et qui se servirait de l'électronique. Et donc, il décide de fonder le premier studio du futur. Et puis, à partir de ce moment-là, les ennuis commencent.
Évidemment.
C'est-à-dire qu'il crée sur le succès consécutif du parrain d'Apocalypse Now, il est au sommet de sa gloire, il dit je vais créer un studio et je ferai un studio qui sera dédié aux auteurs. Et il fait, comment ça s'appelle en français, coup de cœur, je crois,
One from the Heart,
qui est une comédie musicale entièrement tournée en studio où pour la première fois dans un film, il se sert d'une espèce de storyboard électronique. C'est-à-dire son film existe en vidéo et il se sert de retour. Tout d'un coup, c'est un univers de science-fiction au service d'un film qui coûte de plus en plus cher et de plus en plus compliqué et dont de plus en plus on se rend compte qu'il ne va pas être le même type de succès que Le Parrain, etc. Donc nous on débarque, on dit nous on veut rencontrer Coppola, on veut parler du futur du cinéma alors que lui est en train de se débattre avec des problèmes qui vont engloutir cette société très vite.
Coup de cœur, One from the Earth avec la bande originale et la voix de Tom Waits.
I'm just a scarecrow without you. Baby, please don't disappear. I beg your pardon, dear. I got a bottle for a trumpet and a hat box for a drum. And I beg your pardon, dear.
Tom Waits, magnifique, qui est l'une de vos cibles dans ce reportage que vous cherchez à rencontrer, vous croisiez même dans une file de cinéma. Oui. Ce qui est passionnant, Olivia Sayas, c'est qu'on voit votre excitation, toute l'équipe des Cahiers du cinéma autour de ce film, et puis votre déception quand il est projeté, quand vous le voyez.
Bah oui, on voit une version qui n'est pas le film achevé, et puis on sent bien qu'à la fois nous, on a un peu de mal avec, et on sent aussi que le public a du mal avec, que c'est vide, il n'y a personne, il reste la moitié des places à vendre.
Oui, dans votre carnet, vous dites, bon, en gros, le film ne fonctionne pas, ça ne marche pas, mais il faudra que je le revoie quand même. Vous l'avez revu depuis ?
Oui, je l'ai revu, et il est magnifique.
Bon,
il est magnifique. Oui, mais bien sûr. Non, mais simplement, il était à l'époque, il était décalé.
Très bien. Et vous notez aussi, même si l'entretien est un peu décevant, le charisme, la force de conviction de Coppola lors de votre rencontre. C'est aussi votre souvenir, Raymond Depardon. Vous l'avez, il y a plusieurs clichés de Coppola pendant cet entretien que vous avez pris.
Oui, il est impressionnant. C'est vrai qu'il est le descendant de tous, on s'imaginait les Ford ou tous les grands metteurs en scène des studios, quoi. Et à la fois, comme il n'est pas très grand, il a toujours des costumes très à l'italienne. On est obligé de penser à quelque part. C'est un cousin à nous. Quoi. C'est un Italien. Quoi. Et donc, c'est un Européen quelque part aussi. C'est ça qui fait la force des États-Unis. Et à la fois, c'est un très bon cadreur. Et c'est quelqu'un qui sait très bien et qui se met, effectivement, qui aime le cinéma avec une passion. Hollywood, surtout, c'est énormément de grands techniciens. Je pense que en France aussi, bien sûr, mais il y a une quantité incroyable de gens, qui ont, des artisans.
LA 82, Olivier Assayas, Raymond Depardon, carnet de voyage donc avec portfolio, avec vos photographies, Raymond Depardon. Ça vient de paraître au Seuil. Merci d'être venu nous en parler.
Merci à vous.
Europe 1.
La plus grande voix du XXe siècle, Maria Callas, n'a jamais pu écrire le roman de sa vie, mais ses mémoires inachevées et ses centaines de lettres ont été recueillies et rassemblées par Tom Wolfe, le réalisateur cinéaste de Maria by Callas, homme passionné et passionnant qui sera notre invité dans un instant.
Europe 1. Excellent week-end, le samedi de 9h à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen et vous écoutez Cette arrivée cette semaine sur Europe 1.
La voix du XXe siècle, Maria Callas, s'est éteinte à 53 ans après une vie de passion, d'éclat et de souffrance, sans avoir pris le temps de la raconter elle-même. Mais voici que paraît un recueil de 300 lettres privées et de mémoires inachevées rassemblées par un passionné, amoureux, réalisateur du magnifique Maria by Callas. Bonjour Tom Wolfe.
Bonjour Patrick.
Mais quelle mine ! Comment avez-vous pu rassembler tous ces documents ?
C'est le fruit des 5 ans de recherche que j'avais effectué à l'époque où je préparais mon film. J'avais trouvé ces lettres qui devaient pour moi naturellement faire partie du film comme vraiment la voix de Maria. On a Maria et la Callas, et les lettres pour moi c'est vraiment la partie la plus intime. Je me suis dit, il faut quand même que l'intégralité de ces lettres puisse être disponible. Ouais. Et donc j'ai eu à cœur de travailler pendant 2 ans à réunir la totalité de ces lettres et de ces mémoires inachevées et de les organiser de sorte qu'on puisse lire ce livre comme une autobiographie, ouais. Ce qui était en réalité le souhait de Maria Callas, puisque toute sa vie, elle a écrit à ses amis en disant « Je voudrais écrire ma biographie pour mettre les choses au clair. » Tellement elle souffrait de l'image qui était véhiculée par elle, de ce qu'on racontait sur elle, et beaucoup de contre-vérités.
Est-ce qu'on peut dire, Tom Wolfe, que ce qui domine dans ses lettres, c'est la souffrance ? Souffrance de l'exil, de l'éloignement de son mari Meleghini, ça c'est dans les années 50, elle lui écrit beaucoup pendant ses grandes tournées, puis des polémiques, des scandales et de son combat avec sa voix ensuite dans les années 60.
La vie de Maria Callas, ça n'a pas été une vie simple. Elle a commencé par là d'où elle venait. Elle nous parle dans ses mémoires de son enfance à New York, de cette mère qui va la pousser très vite dans les concours pour jeunes talents, sacrifiant complètement son enfance et un semblant de vie normale. Puis cette mère va l'emmener en Grèce,
un retour en Grèce
juste
ouais.
avant la guerre. Mmh. Elle va traverser ces années de guerre dont elle parle aussi très en détail. Et puis évidemment cette vie qui ensuite a été un peu brûlée par les deux bouts, une carrière d'abord qui a mis du temps, où elle a écumé les petits théâtres italiens, elle nous raconte cette période-là aussi, avant cette gloire à la Scala et dans le monde entier, intense, folle, en voyageant dans le monde entier, et puis cette rencontre avec Onassis où elle va délaisser la scène et elle va aussi s'y brûler cette fois-ci personnellement, puisque c'est une relation qui va... à la fois qui va être pour elle une période d'énorme joie et d'émancipation, en quelque sorte, en tant que femme, jusqu'à cette fameuse trahison où Onassis la quitte pour Jackie Kennedy. Et là, c'est une autre période de sa vie qui s'ouvre, où elle essaye de recoller les morceaux. Et à cette période-là, elle écrit à une seule personne, à Elvira de Hidalgo, qui est sa professeure de chant du conservatoire d'Athènes. C'est sa confidente, c'est sa mère de substitution. En fait, c'est la mère qu'elle n'a jamais eue. Et c'est la seule personne à qui elle va se confier suite à la rupture avec Onassis sur cette douleur qui est la sienne.
Alors, à ce stade de notre entretien, Tom Wolfe, il faut écouter Callas. Sa puissance dramatique et son agilité vocale, cette combinaison qui a fait sa légende, on va la retrouver en Norma, évidemment, l'opéra de Bellini qu'elle a chanté, je crois, 89 fois entre 48 et 69. Et l'un de ses tout premiers enregistrements publics, c'est en 52 au Covent Garden de Londres.
Thank you.
Tom Wolfe, pourquoi les puristes, dont je ne suis pas, affirment qu'elle a là une intensité qu'elle n'aura jamais ou presque jamais dans les enregistrements studio?
Cet enregistrement, c'est en réalité un enregistrement pirate, c'est un live, puisque Callas n'a jamais officiellement autorisé d'enregistrement public. Et
pourtant, c'est ce qu'elle écoutera à la fin de sa vie, vous le dites au début.
Oui, les seuls enregistrements qu'elle écoutait à la fin de sa vie, c'était ces fameux enregistrements pirates qu'elle adorait. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe dans le fait qu'elle n'est jamais vraiment officiellement autorisée à les rendre publics, mais elle les adorait, elle les collectionnait elle-même, elle téléphonait aux fameux pirates qui les enregistraient sur le vif, dans les salles, pour les obtenir. Ouais. Parce qu'elle disait que sur scène, en public, elle donnait tout. Elle donnait tout d'elle-même et elle donnait tout de son art. Alors qu'en studio, surtout avec la sensibilité des microphones de l'époque, elle devait toujours retenir sa voix et qu'elle ne pouvait pas la donner complètement. Et donc son interprétation, quand on l'entend en live, c'est ce qui a fait sa légende.
La souffrance, on la voit dans beaucoup de lettres. Paris, Hôtel Ritz, 8 mai 62. Dieu m'a donné deux grandes croix à porter. Ma mère, qui n'est pas tout à fait saine d'esprit, et mon cher mari, c'est elle qui souligne cher, qui a dilapidé les trois quarts de mon argent et me diffame sans cesse. Alors on est dans la période des scandales. Depuis 2 ans, elle vit avec Aristote Onassis, à qui elle écrit peu de lettres, puisque elle vit avec lui. Elle n'est plus en tournée de par le monde comme dans les années 50. Mais il y a une lettre.
Du 20 janvier 68.
Une lettre d'amour.
Qui est une lettre d'amour extraordinaire. C'est la seule lettre qu'on a de Callas à Onassis.
Elle lui écrit en anglais.
Et cette lettre, elle nous donne à entrevoir vraiment toute la vulnérabilité que Maria Callas avait, déjà de sa personnalité, mais surtout vis-à-vis d'Onassis, à qui elle donne tout. Et elle finit cette lettre en signant « Ton âme ». Et je crois que c'était véritablement ça. C'était des âmes sœurs.
Tom Wolfe, je vous propose de finir avec la voix de Callas et un grand enregistrement public, un air de Lucia di Lammermoor de Donizetti avec la baguette de Herbert von Karajan à Berlin en 55. Extrait de Lucia di Lammermoor, Berlin 55, Karajan, la voix de Maria Callas. Pourquoi c'est un enregistrement emblématique?
Ils sont tous les deux au summum de leur carrière et de leur talent, de leur génie.
Maria Callas, Lettres et mémoires, ça vient de paraître chez Albin Michel, c'est complètement inédit. C'est vous qui les avez rassemblés, Tom Wolfe. Merci d'être venu en parler au micro d'Europe
1. Merci beaucoup.
Éternel Callas, pour finir cette émission, avant de nous retrouver demain, 9h10 sur Europe 1. D'ici là, Catherine Ney et Olivier Duhamel vont nous faire part de toute l'actualité média et politique. C'est Mediapolis. Bonjour Olivier.
Oui, même Mediapolitics, vous savez, c'est le nom qu'on avait inventé avec Michel Field au début de cette émission.
Absolument.
Il a été bien repris. Christophe Barbier, éditorialiste tous azimuts, viendra.
tous azimuts. Excellent. Excellente journée à l'écoute d'Europe 1.